Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, on part au Cameroun, on vous conseille des livres de poche pour tous les budgets et on vous raconte une histoire terrifiante. Francis Bébé est un grand artiste, un grand homme de radio aussi, qui a marqué l'histoire culturelle du Cameroun. Sa fille Kidi publie un récit touchant qui revient sur la vie de sa famille. Nous allons vous faire voyager avec eux avec une grosse surprise. Dans l'actualité des livres de poche, nous avons retenu deux livres à lire absolument. Pour rire, Jean-Louis Fournier décrit ce qui l'agace dans la vie. Et pour se distraire, malgré les apparences, Philippe Jaénada raconte un fait divers qui a fait couler beaucoup d'encre. Et puis nous sommes avec Leïla Slimani, son roman Chanson douce est sélectionné pour le prix Goncourt et le prix Renaudot. Un récit terrible, horrible, qui pourtant pointe avec sensibilité et tact la détresse sociale qui mène à la folie.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie. En Belgique, on retrouve la pétillante Déborah Damblon, libraire à Bruxelles, dans la librairie La Licorne. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous?
Tout va très bien.
La Licorne est sage?
La Licorne est une licorne.
Jérémy Laniel représente le Canada à Rosemère dans la librairie Carcajou. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Remis du week-end dernier de votre échange houleux avec Metin Arditi?
Bien sûr, il le faut, il le faut Emmanuel.
Et je rappelle évidemment qu'ici tout le monde lit les livres intégralement, les libraires aussi évidemment, contrairement aux allégations de Monsieur Arditi. Merci Jérémy, en tout cas, d'avoir été patient. Bonjour Grégoire Courtois.
Bonjour.
Vous êtes libraire en France, à Auxerre, dans la nouvelle librairie oblique, place de l'Hôtel de Ville.
Oh, c'est ça, c'est gentil de me dire l'adresse à chaque fois.
Bah, c'est tout nouveau.
Mais c'est exceptionnel, j'adore.
Vous étiez là la semaine dernière aussi, vous. Hein.
Oui, ouais, j'étais là
chaud
aussi.
La semaine dernière,
là, ouais. J'ai essayé de calmer Monsieur Arditi. Ouais,
une émission à retrouver en podcast d'ailleurs, hein, si vous avez raté l'émission sur Internet. En Suisse, à Boudry, c'est Dominique Bressoux qui est avec nous. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie Une Petite Prose. Merci d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Leïla Slimani.
Bonjour.
Vous publiez un roman décapant sous des airs de faits divers avec une nounou qui va tuer les enfants dont elle a la charge. Vous pointez la détresse sociale, on en parlera tout à l'heure évidemment. Mais on commence toujours cette émission par une histoire racontée par l'un de nos invités. Vous avez carte blanche, anecdote personnelle, étonnante. Que voulez-vous transmettre Leïla?
Donc mon roman qui s'appelle Le Chanson douce, c'était un roman à propos d'une nounou et depuis qu'il est publié, je reçois beaucoup d'histoires de femmes qui ont des nounous et notamment cette histoire d'une femme qui m'a raconté qu'elle avait embauché une nounou philippine qui a vécu chez elle pendant très longtemps et qu'un soir, la DGSI est arrivée chez elle, a demandé à la dame de les suivre au ministère de l'Intérieur, ils ont amené la dame et en fait sa nounou était une djihadiste. Ils lui ont montré des photos de la nounou qui avait un AK-47, un bandeau sur le... Ouais. Et évidemment, la femme a eu la frayeur de sa vie. Ils n'ont jamais retrouvé la trace de sa nounou. Et voilà, j'ai eu beaucoup d'histoires comme ça sur des nounous assez étonnantes. Une autre qui s'est mariée avec le mari, qui a quitté sa femme pour la nounou.
Oui,
méfiez-vous. Méfiez-vous de ceux avec qui vous vivez, quel qu'il soit.
C'est un carnage absolu, parce qu'entre votre livre et votre histoire, le marché de la nounou va s'effondrer.
Bah, c'est les gens qui me racontent ça, qu'est-ce que vous voulez que je
dise ? C'est terrible, Leïla.
Bah ouais,
vous vous rendez compte de la responsabilité ou pas ?
Oh non, mais arrêtez, vous allez me faire stresser. Là.
Leïla Slimani est dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour, qui dit bébé?
Bonjour.
Mon royaume pour une guitare est paru aux éditions Michel Lafon. Vous racontez la vie tourmentée de votre mère, mais aussi et surtout de votre père. Francis Bébé, grand artiste, grande personnalité de la musique africaine, mais aussi homme de radio. Au Cameroun, Francis vit très mal le départ de son frère Marcel pour la France alors qu'il est enfant. Il y part faire ses études, Marcel, et laisse à Francis une guitare. C'est le fil rouge de votre histoire, la guitare.
Oui, même si j'en ai fait une légende en réalité, je ne sais pas du tout comment la guitare est arrivée dans ma famille, mais je l'invente.
Elle a existé quand même ou pas du tout?
Elle a existé, mon père était guitariste en
effet. C'est ça, oui, mais la fameuse guitare.
La fameuse guitare, j'aime bien imaginer qu'elle est arrivée mystérieusement au 15e siècle.
Alors on va resituer, qui dit bébé, Francis, votre papa, va d'abord faire ses études de lettres à la Sorbonne. Il partira en France à son tour et croise son frère qui lui est parti à ce moment-là s'engager dans la voie de l'indépendance du Cameroun. Cameroun. Et puis, il va aux États-Unis apprendre le journalisme. Il devient un reporter radio. Il va interviewer Aimé Césaire, Frantz Fanon, Léopold Sédar Senghor. Et de là naît une vraie passion, un vrai engagement pour la radio.
Un vrai engagement pour la radio, un vrai engagement pour les arts aussi. Je crois qu'il avait vraiment envie de faire entendre la voix, les voix de l'Afrique et du monde noir, comme on disait à l'époque, parce que ces voix qui avaient été très étouffées par la colonisation.
Et il deviendra évidemment un grand musicien que l'on connaît, mais surtout il est nommé à l'UNESCO avant ça.
Il est nommé à l'UNESCO, il devient fonctionnaire international. Donc il n'est pas nommé pour être diplomate camerounais, mais pour être fonctionnaire pour l'ensemble des pays du monde. Et voilà un travail très sérieux, très prestigieux, très apprécié par la famille, bien évidemment, mais qui, lui, il va le laisser un petit peu maussade un certain temps.
Insatisfait, en tout cas.
Pas satisfait, ouais. Voilà. On comprend, je comprends, et la famille comprend, surtout lui, qu'au fond, sa passion n'est pas du tout là.
Ouais, ouais.
Pas derrière les bureaux avec des cravates et des costumes.
Non, c'est plutôt du côté de la musique, on va évidemment y venir. On va écouter justement le son du monde, qui dit bébé, le principe, une musique habillée d'une voix. Cette voix lit un extrait de votre livre. Celui qui a accepté, vous le connaissez très bien, nous l'avons retrouvé hier dans un lieu symbolique, le Montreux Jazz Café, à la gare de Lyon, à Paris. C'est un grand musicien, une star mondiale, c'est Manu Dibango, qui va lire votre texte, qui dit bébé.
Mon tonton.
Et cette musique, c'est aussi une surprise pour vous, à laquelle il a tenu, parce qu'il nous a transmis une musique à glisser comme ça, sous cette lecture.
Merci,
une composition de Francis Bébé et de Manu Dibango.
Idi ba ibu si bwa me, ese we. Wopakata, alea.
De retour à Paris, Francis s'achète une méthode, des médiators, un repose-pied, un métronome et bien sûr une guitare. Il veut apprendre plus vite à jouer en attendant de récupérer l'instrument ancien sous la garde de sa sœur aînée. Marcel ne lui a-t-il pas dit que ce manche et ses cordes les relieraient à jamais? Si tu pinces une corde, je le sentirai. Ainsi la musique nous permettra de nous rejoindre même si nous sommes très éloignés l'un de l'autre. L'apprentissage débute lentement. L'instrument est rebelle, revêche même. Gratter les cordes est une chose, jouer en est une autre. Il ne sait pas d'où lui viennent les notes. Peut-être les saisit-il comme on saisit les mots autour de soi, pour en faire des phrases dans la clarté de l'air et le frisson du vent.
Ese we biri biri, osi uta pe boso, ombwa na ipasi ne pasi ombwa, bondi ese itele no te bile mai ombwa.
Vous retrouvez-vous dans ce texte, Manu Dibango? C'est ce que vous avez vécu vous-même quand vous avez expérimenté la musique comme Francis Bébé?
Alors, l'instrument lui-même, évidemment, on est amoureux de la musique, on est amoureux d'un certain instrument, mais il faut que lui soit amoureux de vous aussi. Alors, un certain temps pour se parler, se comprendre, s'aimer, et exactement ce qu'il éprouve là, c'est ce que moi j'ai éprouvé aussi avec le saxophone.
Que vous a-t-il apporté, Francis Bébé, Manu Dibango?
Ah ben, il m'a ouvert des horizons, hein, parce qu'il était guitariste, moi, quand... Je l'ai rencontré c'est il y a longtemps, quand même en 1951, dans une colonie de vacances. Bon, non, on est resté 2 mois ensemble. Il était mon idole parce que forcément, il jouait pour moi. À l'époque, il jouait bien la guitare. Moi, je commençais le piano et j'avais une mandoline. Et il m'a ouvert le monde de l'harmonie. Il m'a ouvert le monde des Duke Ellington, la luxuriance et tout ça. Et vraiment, surtout le côté harmonique, quoi. Et tout le long, je crois que j'ai eu une bonne histoire d'amour musical avec Francis pendant très longtemps.
Alors du coup, le Cameroun vous doit beaucoup à tous les deux, en termes de rayonnement international, culturellement parlant, lui avec son rôle à l'UNESCO notamment, sa musique évidemment, et puis vous avec tout ce que vous avez fait dans votre carrière, ce parcours autour du monde.
En tout cas, chacun de nous a marqué notre pays, hein, d'une certaine empreinte à apprécier par le pays. Mais il est clair qu'on a fait connaître le Cameroun différemment, quoi. Voilà, en tout cas culturellement parlant, artistiquement parlant, certainement.
Vous avez un petit mot pour terminer, un petit mot adressé à Kidi Bébé, Manu Dibango.
Ben, Kidi, merci pour le livre. Enfin, c'est assez étrange, je l'ai lu parce que je te connais avant que toi-même tu te connaisses. C'était intéressant de voir ton regard sur ton père et sur ton milieu familial. Alors, j'ai pas fini, hein, je vais continuer et puis je t'appellerai quand j'aurai fini. Je t'embrasse.
Osi uta pe boso, ombwa na epasi ne pasi ombwa.
Une réaction, Kidi Bébé.
Super surprise, merci Manu infiniment. Merci, effectivement, vibraphone, piano, saxophone. On était dans ce monde-là et Manu était là souvent. C'était un autre tonton Manu, en fait.
Oui, c'est ça. Alors, il a tenu la surprise. Hein. Normalement, il ne vous a pas appelé.
J'avoue que je suis épatée, la classe.
On a vraiment organisé ça. Vous aviez interdiction de communiquer avec lui. En tout cas, il avait interdiction, lui, de communiquer avec vous. La librairie francophone est aussi donc une passerelle entre les artistes et écrivains francophones. C'est ce qu'on souhaite chaque semaine. Kidi Bébé, il y a 4 libraires qui ont lu votre livre. On commence par le Canada avec le très critique Jérémy Laniel.
Oui, ben, ce livre, hein, tout au long de la lecture, j'ai l'impression qu'on reste un peu à cheval entre le roman et le récit autobiographique. L'écriture de Bébé est vraiment très tendre à l'endroit de ses personnages, si on peut les appeler ainsi, hein, quand même. Et on avance dans la lecture sans vraiment d'attache, mais pas nécessairement sans intérêt. Reste que les récits d'immigration, les regards sur une nouvelle société d'accueil sont quand même nombreux dans nos librairies depuis quelques années, puis j'ai comme l'impression qu'ils se détachent pas vraiment du lot.
Bien, Déborah Damblon en Belgique, vous n'êtes pas du tout d'accord.
Ben non. Pas du tout. Moi, j'ai passé un très, très, très bon moment. Mais je pense que j'étais africaine dans une autre vie. Parce que j'ai adoré cette jolie fresque familiale. J'ai trouvé que c'était une jolie leçon d'humanité, une belle leçon de courage. Et je me suis complètement sentie en empathie avec votre narratrice et sa famille, même si nos origines sont différentes. Et j'ai vibré à l'unisson. J'ai trouvé que votre écriture, elle était juste, elle était précise, elle était prenante. Elle m'a prise, moi. Et je trouve qu'on ressort justement de cette lecture tout à fait rafraîchi et de bonne humeur et personnellement avec une furieuse envie d'apprendre la guitare, alors garez-vous.
Voilà, si vous rejoignez la librairie francophone, on est avec Kidi Bébé, fille de Francis Bébé. Alors pour votre famille au Cameroun, Kidi, c'est compliqué. Cet exil pour la France, au départ très provisoire, hein, va devenir définitif. Mais vraiment malgré eux, parce qu'ils essayent de rentrer au Cameroun.
Ils essayent de rentrer, mais il se passe une chose, c'est que le Cameroun est effectivement en train de chercher son indépendance et de l'obtenir, je dirais, pas si facilement que ça. Il y a une résistance à la présence française et ensuite au gouvernement qui se met en place. Et mon oncle, le frère aîné de mon père, est impliqué dans cette résistance.
C'est ça, ouais.
Donc voilà, le retour présumé est problématique.
Accusé de trahison, Marcel, il va connaître les geôles du pouvoir. Il est pourtant nommé député, mais il finira en prison, torturé. Et il va mourir à la sortie de prison. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Il est chirurgien, il ressort de prison aveugle et il meurt dans des circonstances pas encore tout à fait déterminées. Donc oui, il y a un vrai problème, un problème dramatique même, de cette résistance camerounaise. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie d'écrire le livre. Et en même temps, je voulais montrer que cet exil involontaire, eh bien, il pouvait servir à se transcender.
Oui,
parce que c'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé. Grégoire est face à vous, il représente la France, Grégoire Courtois. Qu'en pensez-vous? Que voulez-vous dire à Kidi Bébé?
Exactement ce que vous venez de dire, en fait.
Merci beaucoup, Grégoire.
Non, mais voilà, c'est exactement ce qui m'a marqué dans le livre. Moi, quoi? C'est vraiment toute cette lutte déjà d'une part.
Ah, de Marcel.
Alors déjà Marcel, ouais. Le personnage de Marcel qui est absolument passionnant. Moi, je trouve même presque plus passionnant que Francis, même si, excusez-moi, c'est le héros. Mais malgré tout,
c'est son père Francis. Hein,
oui, mais il y a quand même ce lien entre les deux qui donne une profondeur au roman qui est absolument incroyable. Et puis ces espoirs déçus, effectivement, moi aussi, c'est ce qui me frappe. Dans d'autres romans aussi, hein, de d'autres pays d'Afrique, où effectivement, on voit toute cette effervescence qui est pleine d'espoir et puis qui se retrouve complètement balayée par l'histoire.
Donc vous avez aimé le livre?
Ah oui, bien sûr.
Très bien. Dominique Bressou.
C'est pas clair.
En Suisse, oui, c'était limite. Vous voulez réagir?
Oui, moi ce qui m'a frappé dans ce roman, c'est la loyauté qui règne dans la famille Bébé. Il n'y a pas de dispute, il y a une confiance aveugle dans le père de la part de la mère et des enfants. D'ailleurs, en fait, qui dit Bébé, vous semblez vouer une admiration telle à votre père que je me suis prise à espérer débusquer chez lui au moins un petit défaut ou bien une faiblesse, mais non.
Ah bah si, pourtant il y en a un. Parce que quand il est déprimé, quand il perd son frère, il est dans un désespoir, une déprime totale. Et il y a plusieurs pages où vous décrivez qu'il est insupportable.
Oui. Cette dévotion, en fait, c'est parce que j'ai essayé de rendre ce roman du point de vue de la petite fille que j'étais, pas de l'adulte d'aujourd'hui. La petite fille qui admire ses parents, qui a envie d'être seule sous leurs yeux. On est 5 enfants et je rêve régulièrement d'éliminer les autres. Ouais. Et c'est ce regard-là que j'avais envie de rendre un peu ébloui de la fillette qui a envie d'être au centre, finalement.
Et vous êtes soulagée, vous aussi, quand il s'en va? C'est-à-dire parce qu'à un moment, il y a cette déprime, donc, et la providence le rattrape parce qu'il est envoyé par l'UNESCO chargé de mission pour aller étudier les musiques africaines. Donc pendant un mois, il part là-bas à la rencontre d'artistes. Et quand il part, toute la famille est soulagée.
Toute la famille est soulagée parce qu'il y a cette grande tristesse liée au drame familial de la mort du frère. Il y a cette grande tristesse. Et nous, les enfants, ne savons pas analyser la raison de ce drame. On sait juste que ça va devenir une sorte de tabou familial. Et c'est bien des années plus tard, d'ailleurs, qu'il ressurgira pour moi sous ma plume.
Oui. Alors il sort un livre, hein, quand il rentre de mission, carrément, il doit faire un rapport, mais il en fait un livre, et il va y avoir une révélation pour lui. Quand il rentre, il a compris quelque chose.
Oui, il a compris que son continent d'origine et ses cultures étaient des choses extrêmement précieuses qui reliaient ce continent à l'ensemble du monde. Il est né dans une Afrique colonisée, où on annihilait totalement tous ses savoirs, où on regardait de haut la musique, par exemple, où la grande musique, dite grande musique, était censée être occidentale. Et il découvre que non, il y a une créativité fantastique, qu'il y a une philosophie derrière cette créativité et qu'il pourrait peut-être être le médiateur de ça pour le monde.
Et il va devenir musicien comme ça. C'est-à-dire que quand il rentre, il décide d'abandonner son poste à l'UNESCO.
Voilà.
Il prend un risque considérable.
Il démissionne.
Voilà, il démissionne, il perd sa protection, c'est très important, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est Camerounais, qu'il y a des bouleversements dans le pays, et il perd aussi la sécurité financière.
C'est ça, il a 5 enfants en bas âge, une femme au foyer, et il prend ce risque. Et ça aussi, c'est ce que l'on découvre quand on est adulte. On se rend compte du risque qui a été pris, du courage que ça représentait, mais aussi de la passion, finalement, du sens que ça a de se dire « Eh bien, je vais accomplir mes rêves dans cette vie, et pas dans une autre ».
Et votre livre se conclut par un rêve, l'un de ses rêves, un voyage au Québec, à Montréal. Il devient une star, il réalise là-bas, il ira parcourir le monde francophone, mais ses livres, vous le dites, sont aussi étudiés aux États-Unis, en Suède. Sa musique fait chanter l'Afrique.
Oui, voilà, reconnu partout. Et finalement, il a opéré son retour, symboliquement. Ce retour, ça a été, le but de ce retour, c'était contribuer à quelque chose pour l'Afrique. Et bien cette contribution, il l'a faite en étant à l'extérieur de l'Afrique.
Vous écrivez un Africain seul avec son monde dans une guitare. On termine sur la guitare de Francis Bébé. Merci beaucoup, Kiddy Bébé.
Merci à vous.
Merci infiniment. Mon royaume pour une guitare est publié aux éditions Michel Lafon. C'est un bel hommage à votre père disparu en 2001 déjà. Vous jouez un peu de guitare, vous?
Non, mais je danse.
Ah ouais, vous n'avez pas pris le relais de la guitare.
Oh là là, on ne va pas se confronter à des choses trop difficiles.
Par le mouvement du corps, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Kiddy. Merci. Dans quelques instants, l'actualité des livres de poche avec Philippe Jaénada et Jean-Louis Fournier pour un entretien très drôle. Avant cela, voici le tout nouveau titre du chanteur français Cyril Mokayesh en duo avec Bernard Lavillier.
On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir. On vous laisse voler la victoire. On vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché. On vous laisse notre âme sur le bas-côté, endetté, endetté, en détresse, à genoux de chagrin d'avoir fait le baise-main à l'austérité, son altesse. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber.
On vous laisse libéral démocratisé, chômage à volonté. On vous laisse nos destins s'ouvrir les veines en commission européenne. On vous laisse allonger la peur dans notre lit, mais faut pas toujours croire ce qu'on dit. À Athènes, Apollon a raison de chanter ma liberté.
On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité,
de quoi vous distraire quelques années. On vous laisse ArcelorMittaliser à Florange, l'or et l'acier.
On vous laisse cet étrange capitaliser sur la précarité.
On vous laisse à vos super hyper profits pour la belle vie.
Chez Lidl, le pack de bière a des pulsions suicidaires.
On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés,
de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité,
de quoi vous distraire pour quelques années.
Nos frontières se refermer, hommes à la mer émigrés, cap sur l'Angleterre depuis la Guinée, t'as le temps d'apprendre à nager.
On vous laisse nos frontières se refermer sur la Méditerranée. Enfant de la guerre, cherche un bout de terre pour apprendre à marcher.
De quoi vous distraire pour quelques années.
De quoi vous distraire et vous en aller.
Vous distraire et vous en allez.
Bernard Lavillier et Mokayesh, la loi du marché sur votre radio francophone.
De quoi vous distraire et vous en allez.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde avec des libraires qui vont vous parler des livres dans toutes les catégories. Coup de gueule ou coup de cœur, c'est la loi du marché aussi. On commence dans le rayon des livres pour la jeunesse avec le français Courtois Grégoire qui vous présente, contre toute attente, un coup de cœur.
Eh oui, un coup de cœur pour un super petit livre pour enfants. Alors c'est pour les tout petits, c'est une idée graphique absolument incroyable. Ça s'appelle Le Ruban, oui. Et effectivement, il y a un ruban qui dépasse du livre.
Oui.
Et
au jaune.
Qui a un ruban jaune, et au fur et à mesure des pages, vous allez découvrir des petites scènes qui sont toutes simples. C'est le funambule et votre ruban, quand vous le mettez à côté du livre, ça fait le fil du funambule.
Quand vous dressez le ruban, ça
voilà,
fait le fil.
Après, il faut trouver l'endroit où il faut mettre le ruban exactement. C'est des idées très très simples. Ça, c'est le fil de pêche.
Ah, voilà. C'est pêche,
la pêche. Il y a les poissons, il y a l'hameçon, il y a le fil du cerf-volant, etc.
Bon, très bien, donc c'est bien le ruban.
Le ruban, Adrien Parlange, faut dire le nom quand même.
Et c'est où ?
Albin Michel.
Très bien, merci Grégoire. Dans la catégorie des livres de poche, on part au Canada avec Jérémy Laniel. Coup de gueule ou coup de cœur, Jérémy ?
Coup de cœur, Emmanuel, pour Marie-Hélène au mois de mars de Maxime-Olivier Moutier. C'est un livre qui a été publié d'abord en 98, qui a été publié en poche et là qui est réédité en poche pas loin de 20 ans après sa publication. Faut dire que c'est vraiment un récit d'une démence. On est plongé dans ce que l'amour a de plus horrible à nous proposer, Emmanuel. C'est le récit de l'internement de Maxime-Olivier Moutier. 23 ans, il est à l'université. Il tente de se suicider à suite à une peine amoureuse et pendant qu'il sera interné dans un hôpital psychiatrique, il va écrire le deux tiers de ce livre. C'est un livre vif, violent, difficile, sans appel. C'est vraiment là, la folie, la jeunesse, l'amour, la détresse. Tout ce qu'il y a de plus beau et de plus laid en nous se trouve dans ces pages. Courez vous procurer Marie-Hélène au mois de mars de Maxime-Olivier Moutier. C'est publié cette fois-ci chez Marchand de Feuilles.
Très bien. Merci beaucoup, Jérémy. Très bon auteur, hein, Max-Olivier Moutier. Merci à vous.
La librairie francophone, Emmanuel Quérade.
Première séquence, livres de poche pour cette saison en 2016-2017. La rentrée littéraire concerne aussi les livres de poche. Plusieurs sorties font l'événement. Jean-Christophe Ruffin et son Checkpoint, par exemple. Sorge Chalandon et sa Profession du père. Mais aussi l'essai de Jean-Louis Fournier, Ça m'agace, qui a retenu notre attention. On va rire un peu l'espace de 4 minutes avec l'auteur apprécié de Où on va papa, Jean-Louis Fournier, fidèle de la librairie francophone, se lâche.
Librairie francophone.
Ça m'énerve.
J'ai envie de vous dire que j'écris ce que j'ai envie d'écrire et que...
Ça m'énerve.
Je ne pense pas trop aux gens qui vont me lire.
Emmanuel Quérade.
Ça m'énerve.
Jean-Louis Fournier, agacé, est dans la librairie francophone cette semaine. Jean-Louis, vous avez publié Ça m'agace. Vous êtes un râleur ou vous êtes un réaliste ?
Réaliste, je pense. C'est-à-dire que je suis un râleur qui parle. C'est-à-dire que je crois que les râleurs ont un rôle social. Que si tout le monde était content de tout, on ne ferait jamais de progrès. Si tout le monde se contente de peu, si tout le monde se dit « Oh, c'est pas très bien, mais c'est comme ça, il n'y a rien à faire », on est une société qui est complètement foutue. Vous savez, les gens qui râlent, ce sont des gens qui pensent que les choses peuvent être mieux.
C'est ça,
qui
exactement.
Qui ne sont pas résignés à la médiocrité des choses, oui. Et qui sont un petit peu idéalistes. Et donc, c'est pas simplement le râleur de base. Moi, je crois que c'est...
Bon, c'est salutaire, un râleur.
Je suis en train de prêcher pour ma parole.
Ah non, mais je suis tout à fait d'accord, Jean-Louis.
Je ne peux pas m'empêcher de... si vous voulez, quand j'entends dire une connerie, quand je vois... comment dire, et Dieu sait qu'on en entend beaucoup.
Ouais.
Quand je vois faire une connerie, je me sens obligé de le dire. Parce que j'ai l'impression que si je laissais faire, je serais complice. Et donc, bon, à tort ou à raison, hein, je prétends pas que moi je connaisse la vérité.
Le scooter des mers aussi, qui ne va nulle part.
Ça, pire que tout.
Qui fait un maximum de bruit possible.
Le gars qui a inventé le scooter des mers, c'était un malfaiteur de l'humanité.
C'est ce que vous dites.
Les gars sont mis en vacances, ils sont au bord de la plage, il y a des poissons qui font la sieste, il y a des crevettes qui sont là bien tranquilles. Ils réveillent les poissons. Ils empêchent les braves gens qui sont en train de profiter d'un peu de silence, parce qu'ils sont venus en vacances, parce qu'ils habitent au bord du national. Et ils dorment mal, ils comptent pas les moutons pour s'endormir, ils comptent les camions, ces gens-là. Là, tout d'un coup, ils sont tranquilles, et puis il y a un mec qui vient. En plus, si vous voulez, si ce scooter des mers servait à aller sauver quelqu'un, tout ça, pas du tout. Il tourne.
Il y a des sauveteurs aussi qui l'utilisent.
Oui, mais d'accord. Mais alors ceux-là, ils ont le droit. Voilà. Moi, je parle pas des sauveteurs.
La nature aussi, Jean-Louis Fournier, des éléments comme ça qui vous agacent, certaines bestioles, comme les mites et les moustiques, par exemple. Vous dites, dans la vie, tout le monde essaie de faire son trou, mais attention, les mites, il y a des limites.
Oui, non, mais les mites, elles sont perverses, parce qu'il est bien évident que quand elles vont faire un trou... D'abord, elles le font toujours à l'endroit où ça se voit. Moi, ça ne me gênerait pas qu'elles mangent un bout de manche si vraiment elles sont affamées. Mais là, elles mangent là, devant. Vous savez pourquoi ?
Non.
Ben c'est là où il y a des taches de sauce.
C'est avec l'ouvre-boîte.
C'est plus nourrissant. C'est pour ça, donc.
Les moustiques aussi.
Ouais, moustiques, c'est
on laisse toujours une chance, pourtant, aux moustiques. Hein. On ne les tue jamais tout de suite.
Il y a la Libye. Non, mais il y a la Libye qui nourrisse les oiseaux. Ben, les oiseaux ont qu'à manger des frites et puis ce sera réglé. Pourquoi on conserve ?
Alors, tout ça, c'est juste, Jean-Louis Fournier, mais parfois. Parfois. Vous êtes un peu méchant aussi.
Mais je suis méchant.
Alors, les camions sur l'autoroute, par exemple, qui essayent comme ça de se dépasser, ça vous agace. Vous écrivez à propos des routiers. Vous avez le fond mauvais où vous êtes simplement jaloux. Jaloux des automobilistes qui peuvent aller plus vite que vous et qui conduisent des jolies voitures légères avec à leur côté une femme légère aussi. Vous, vous êtes tout seul dans votre engin qui pèse des tonnes et quelquefois, vous avez à vos côtés une femme qui pèse aussi des tonnes.
Ah ben,
prends.
Eh ben alors.
Oh là 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 là.
Voilà. Bon alors, plein de personnes vont dire, on n'a pas le droit de dire ça, c'est d'un mauvais goût extrême.
Un peu,
et tout
oui,
ça.
Hein.
Eh ben, Oui, non, c'est d'un mauvais goût extrême, et c'est comme ça. Mais j'aime beaucoup de choses, vous savez.
C'est vrai. Qu'est-ce que vous aimez d'ailleurs ?
La musique et les gens.
Ouais, la musique classique notamment.
La musique classique et les gens. Aussi étrange que ça paraisse.
Aussi étrange que ça paraisse. Sauf les routiers, les gars en scooter.
Mais non, mais j'adore les routiers aussi. Je fais semblant d'être méchant. Oui. On est dans une société remplie de faux gentils, de tas de gens qui font semblant d'être vachement gentils et ils sont très méchants. Moi, je suis un faux méchant.
Et l'essai de Jean-Louis Fournier, Ça m'agace, est paru en poche, au livre de poche. Quelque chose vous agace, qui dit bébé, Leïla Slimani, à ce point-là, vous ?
Non, mais je trouve ça très drôle ce qu'il dit sur les mythes, parce que c'est tellement vrai. C'est toujours sur le plus joli pull, celui auquel on tient le plus, qu'elle s'attaque. Et finalement, le vieux gilet pourri dont on se fiche complètement, il n'est jamais mangé par les mythes.
Comme le joli pull en cachemire que vous portez, là, c'est ça ?
Oui, mais lui, il est trouvé par une mythe. Donc, vous ne regardez pas dans les détails.
Non, juste une chose, moi, je ne laisse aucune chance aux moustiques.
Ah oui, non, ça c'est clair, moi non plus, je vous confirme. Bon, il faut lire ce livre, si vous voulez rire un instant. C'est vraiment très bien vu. Jean-Louis Fournier, Ça m'agace. Avant de parler de la terrible histoire de Leïla Slimani qui est en plateau avec nous, voici l'histoire d'une autre meurtrière, un autre fait divers. Philippe Jaénada nous avait parlé de son roman il y a un an tout juste. La petite femelle est un gros roman formidable, sombre et drôle à la fois. Il faut que vous lisiez ce livre et ça tombe bien, il vient de sortir en poche à un prix raisonnable. Voici un extrait de l'entretien avec Jaénada. Bonjour Philippe Jaénada.
Bonjour Emmanuel.
Soyez le bienvenu dans cette émission. Merci. Votre nouveau roman, nouveau récit plutôt, s'intéresse cette fois à Pauline Dubuisson qui déchaîna les passions en France après la guerre, mais aussi au Maroc en 63, condamnée pour avoir assassiné son ex-fiancé d'une balle dans la tête. Ce qui s'est passé pendant la guerre a contribué d'ailleurs à la rendre instable, volage. On ne lui a pas vraiment pardonné d'avoir couché avec des Allemands. Et puis on ne lui pardonne pas de ne pas être une femme soumise. C'est ça votre théorie, vous ?
On lui a rien pardonné du tout. Ouais. Je pense qu'elle a été, donc elle est au centre, pour résumer un peu, elle est au centre d'un fait divers assez banal. Elle a tué son ancien fiancé qui voulait plus se marier avec elle, ce qu'il faut évidemment pas faire. Mais Pauline Dubuisson, tout le monde s'est jeté sur elle, l'opinion publique, la presse, la police, les magistrats, les avocats, pour deux raisons principales. Je pense d'abord parce que effectivement elle a couché avec des Allemands quand elle avait 14 ans, un peu poussée par son papa, qui avait besoin de signer des contrats.
D'intermédiaire, oui. Voilà, parce qu'elle parlait allemand, alors que son père ne parlait pas allemand. Et quand il relance ses affaires, il a besoin d'elle pour...
Il a besoin d'elle pour traduire, contrats. Et puis il se rend compte que quand c'est elle qui va faire signer les contrats, les officiers allemands signent un peu plus facilement. Donc il ferme les yeux sur ce qui se passe ensuite. Et puis aussi, parallèlement à ça, parce qu'elle était un tout petit peu en avance sur son temps, donc elle voulait simplement vivre une vie de femme normale, et à l'époque, c'était pas très bien vu.
Alors en tout cas, il y a eu des livres sur cette histoire, un film avec Brigitte Bardot, La vérité de Clouseau, tous dénoncent ce drame, et vous lui trouvez des circonstances plus qu'atténuantes, Philippe. Vous la défendez, en quelque sorte?
Alors je la défends, mais je lui trouve pas de circonstances atténuantes. Il y a des gens qui... Qu'on s'est jeté sur elle à tort. Ouais. Je trouve pas qu'elle a... Si on lui accorde des circonstances atténuantes, ça veut dire que elle était comme on le pensait, c'est-à-dire qu'elle voulait se venger des hommes, etc. Ouais. Moi, je pense simplement que c'est, oui, des circonstances atténuantes si on veut, mais c'est une jeune femme qui a été le bouc émissaire de toute une société.
Pourquoi elle en arrive à ce meurtre, à cette tentative de suicide? Enfin, c'est selon les points de vue, mais en tout cas, pourquoi elle en arrive à cet extrême?
Parce qu'elle est désespérée, c'est-à-dire que pendant 3 ans, elle a repoussé ses avances parce qu'elle voulait continuer ses études de médecine, et elle savait que si elle acceptait sa demande en mariage, elle pouvait ranger sa blouse d'interne dans un placard et puis prendre une casserole et faire repasser pour aller à la cuisine. Donc elle a repoussé ses avances, et puis quand lui en a eu marre, quand les parents de ce jeune homme également ont trouvé que c'était une mauvaise fréquentation cette jeune fille et l'ont éloignée d'elle, elle s'est rendue compte un an plus tard que voilà, il lui manquait, ça arrive, hein, les juges, les avocats, l'avocat général et le juge au tribunal n'ont pas compris ça, on dit soit on aime les gens, soit on les aime pas, c'est pas vrai, on peut très bien ne pas se rendre compte pendant 3 ans qu'on aime quelqu'un. Et donc moi je pense très sincèrement, c'est pas de la mauvaise foi, c'est pas pour la défendre, je pense qu'elle voulait simplement se suicider devant lui, elle est allée chez lui, elle a braqué le revolver sur elle, il a bondi sur elle, et par réflexe, elle a éliminé ce qui allait l'empêcher de se tuer. Elle a éliminé le jeune homme qu'elle aimait.
Elle sort pourtant très vite de prison, Pauline Dubuisson. Elle va être condamnée, condamnée à perpétuité, aux travaux forcés. Elle ne fait que 10 ans à peu près.
Ouais.
Mais son passé la rattrape rapidement. Dès sa sortie, un adolescent passionné de faits divers la reconnaît dans la rue. Et cet ado, c'est Patrick Modiano, le prix Nobel.
Je pense qu'il a 15 ans à cette époque-là, je pense que ça a marqué, il en a parlé souvent, même à la remise du prix Nobel il n'y a pas longtemps, il racontait encore cette anecdote. Je pense que ça l'a marqué de croiser dans la vraie vie une de ses héroïnes qu'il fascinait, qu'il terrifiait, qu'il avait vu dans les journaux. Mm-hmm. Je pense que toute sa littérature est tourne autour de ça et crois que ça l'a beaucoup marqué, ouais.
Et le roman de Philippe Jaénada, La Petite Femelle, est paru en poche aux éditions Point. Dans cette plus grande librairie du monde, pour la catégorie des essais, on part en Belgique avec Déborah Damblon. Coup de gueule ou coup de cœur, Déborah ?
Un coup de gueule, Emmanuel. Puis vraiment un coup de gueule, parce que j'en ai marre, mais en cette période préélectorale française, j'ai envie de râler, mais de râler très très fort, sur ce flot de livres politiques inintéressants qui nous inondent complètement, même au-delà des frontières de l'Hexagone.
Oui, c'est-à-dire vous êtes envahi par la politique française.
Mm-hmm.
Et vous en vendez ou pas ?
Ben non, évidemment.
Ah oui. Donc ça sert à rien.
Ben voilà.
Bon, merci pour ce coup de gueule, Déborah. Dans la catégorie des romans contemporains, on jette une oreille dans la librairie de Dominique Bressoux en Suisse. Un coup de cœur, Dominique.
Oui, un grand, grand coup de cœur pour un roman qui nous conte les histoires d'amour de Puccini. Le maestro aimait les femmes et le leur faisait bien savoir. Mais ce qui m'a fasciné dans ce livre, c'est la description du processus de création des opéras, de la façon de capter la musique de l'univers. En fait, même ceux qui n'aiment pas l'opéra écouteront la Bohème ou la Tosca, le cœur battant, après ce livre de Brigitte Hall aux éditions Âge d'Homme. Et ça s'appelle Puccini l'aimait.
Très bien, merci Dominique. La librairie francophone avec Jean-Louis Fournier, Philippe Jaénada, Manu Dibango et qui dit bébé. Et qui dit bébé dit nourrice et qui dit nourrice dit Leïla Slimani. Désolé, c'est un pari avec l'équipe, je vous avoue. Leïla, vous publiez Chanson douce chez Gallimard, c'est votre deuxième roman. Il figure sur la nouvelle liste du prix Goncourt parmi les 8 retenus, mais aussi du prix Renaudot. C'est une histoire horrible, c'est très dur d'enchaîner après ce très mauvais jeu de mots. Mais en tout cas, une nounou qui assassine deux enfants dont elle a la charge. Il y a une montée de l'intensité psychologique remarquable, c'est très incarné. Vous êtes inspiré d'une histoire vraie ou d'un fait divers ?
Je me suis inspirée pour, en tout cas, l'histoire, justement, pour l'histoire qui est un peu fait divers, c'est-à-dire l'histoire du meurtre. Je me suis inspirée d'un fait divers qui a eu lieu à New York en 2012, qui est à peu près la même chose, c'est-à-dire une femme qui était depuis longtemps nounou dans une famille et qui, une après-midi, sans que rien n'ait donné, si vous voulez, l'alerte, a assassiné des enfants dont elle avait la garde. Mm-hmm. Mais pour le reste, je me suis plutôt inspirée de ce que je voyais, c'est-à-dire des squares dans lesquels je me suis baladée, des conversations que j'ai pu entendre d'amis à moi sur leur nounou, et puis de mon propre comportement, enfin voilà.
D'accord, donc un mélange de
tout
réalité,
ça. Voilà.
À la fin de cette émission, en tout cas, vous allez regarder Nounou et Babysitter avec un autre œil, grâce à Leïla Slimani. On poursuit cette conversation après une curiosité musicale haïtienne. Voici un tube mondial interprété par les Fugees dans une version créole, française et interculturelle. Écoutez, c'est très rare et c'est dans la librairie francophone.
Haïti. L'Espagne, tout partout, New York City. Alors viens voir, c'est rend leur répertoire.
On était numéro 10, Mais numéro 1.
Oui, clef, fils de prêtre, rappeur, pas gangster.
Quand je marche dans la vallée, je ne crains aucun mal. Tatueuse avec moi, chantons, oulala.
From Brooklyn to Jersey, Manhattan to Paris. Fuji's international like no other MCs. Like Ichini, Sang-Chi, Go No Koshichi, Hachi. Voulez-vous coucher avec moi ce soir, baby?
She looked at me and smiled, I started losing control.
My French wasn't up to par, so I rock in Creole.
Qui passe me de calotte, moi tombé rêvé, hambré. Même sous conduit football, dernier goal lancé pour Pelé.
Ooh la la la, it's the way that we rock when we doing our thing. Ooh la la la, it's the natural law that the refugees bring. Ooh la 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 la. And New Jerusalem kids be rocking and get down for they dough, but
mucho trabajo, poquito dinero.
But soon I'll be counting pesos with my peeps in Mexico.
But for now I'm in La Bamba, push the lyrics with the samba.
Crews get confused when
when I say konnichiwa. So I move from Japan and make plans in Korea.
Like na 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 na, anyang hashamika ha ha, suli serang mamni ha ha.
Vas imaginer le voyage, jamais me détruire. Je sens les faibles de bien loin de l'atmosphère que j'ai respiré. Dire, ta mentalité en fautif. Ne cause vraiment, cause imbécile. Qui pense que la poésie est des milliers ont continué à mystifier. En rêve profond réalisé, à travers les mots de réfugiés. Alors viens voir, c'est vraiment répertoire. Si tu connais pas mon histoire, appelle les réfugiés sans l'âge.
Ouh la la la, it's the way that we rock when we doing our thing. Ouh la la la, it's the remix sound that the refugees bring. Ooh la 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 la. So we take.
She love me like no other before.
Grand palmier, j'aime à 420 degrés. J'ai joué avec la brise dans les West Indies. Fruits de mer, envoie mes valises. Du bon vin fin sur la Normandie avec ma Josephine.
Telling me this, telling me that.
They smile in my face, but they talk behind my back. But what they lack is the facts about my stacks. L'impact de mon rap, le tout douce, ma
combo with the flat. Hey yo, what's going on? I'ma get and come, you know what, we soon done. Gun by my side just in case I got a rum. A boy, you on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Yo, what's going on? I'ma get and come, you know what, we soon done. Gun by my side just in case I got a rum. A boy, you on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion.
Call Mr. Martin, tell him to build a coffin. Today is that season. 100 MCs I get murdering.
Stop it!
Call Mr. Martin, tell him to build a coffin. Today is that season. 100 MCs I get murdering. Ha ha ha.
Ooh la la la, it's the way that we rock when we doing our thing. Ooh la la la, it's the remix sound that the refugees bring. Ooh la 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 la. So we take.
She love me like no one before.
Les Fugees avec Fujila, que vous connaissez forcément, chantés notamment en créole haïtien. Et on a une pensée toute particulière aujourd'hui pour Haïti, qui vit une nouvelle catastrophe climatique. Fujila, donc tube mondial sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de l'RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Vous pouvez écouter la librairie francophone en Haïti sur la radio publique haïtienne. Leïla Slimani est dans la librairie cette semaine pour Chanson douce, parue aux éditions Gallimard. Alors Leïla, il y a ce personnage, Louise, qui a 45 ans. C'est la nounou parfaite. Elle est recrutée par un jeune couple qui se lance un peu tardivement dans la vie professionnelle vers un objectif, la réussite. Elle est géniale, Louise, car non seulement elle sait se faire adopter par les enfants, mais en plus elle effectue des tâches ménagères, concocte des succulents repas. Comment se passer d'une perle pareille? C'est vraiment la question, effectivement. C'est le rêve de beaucoup de familles surchargées par leur travail.
Oui, effectivement, elle se révèle une espèce de Mary Poppins moderne. Et disons qu'elle devance même les désirs ou les demandes de ses employeurs, qui ne lui demandent pas forcément de faire tout ça, mais quand ils rentrent chez eux, tout ça est fait. Et donc, de plus en plus, une espèce de dépendance mutuelle va se mettre en place. Ce couple qui ne gère pas très bien sa maison, qui a du mal à s'occuper de ses deux enfants, à faire tout en même temps, se retrouve finalement à la tête d'une espèce d'intérieur bourgeois où on leur change tous les jours leurs draps, où leur cuisine est toujours propre et ils ont l'impression du coup d'avoir une vie parfaite ou en tout cas beaucoup plus confortable et pour ce confort ils vont être prêts à sacrifier finalement beaucoup de choses et à être un peu aveuglés par ce confort.
Et aveuglés par la réussite professionnelle. Il y a une institutrice qui dit que c'est le mal du siècle ça, ces parents pressés et débordés avec ces enfants qui vivent une forme d'abandon. Vous écrivez, c'est nous qui subissons tout, les petits nous font payer leurs angoisses et leurs sentiments d'abandon.
Oui, moi je trouve ça terrible de la part de l'institutrice de dire ça. Ouais. C'est-à-dire que je décris l'institutrice avec beaucoup de... Enfin, j'espère, en tout cas avec un peu de cynisme, parce que c'est aussi facile de sa part de dire ça à une mère qui essaye de faire son maximum, qui est une femme qui travaille. Et puis, évidemment, on a tendance à culpabiliser les parents qui travaillent, qui partent tôt, qui rentrent tard.
Mais c'est pas faux, elle est pas complètement fausse, cette
phrase. Elle est pas complètement fausse, mais effectivement, elle manque peut-être d'un peu de tendresse ou d'un petit peu de compassion pour la situation des mères. Voilà, d'un peu d'empathie. Pour cette mère qui souffre aussi de laisser son enfant.
Louise, en tout cas, réussit parfaitement ce rôle. Pourtant, il y a des petits écarts. Personne ne remarque qu'elle est instable.
Personne ne remarque parce que personne n'a envie de remarquer, parce qu'aussi elle est d'une certaine façon un peu dissimulatrice. Et puis les parents aussi sont, comme vous le disiez, des gens débordés, des gens qui travaillent énormément. Ils n'ont pas le temps de s'apesantir ni sur la misère de leur nounou, ni de manière générale sur la misère du monde et sur ce qu'il y a autour d'eux. Ils sont concentrés sur leur but qui est leur réussite et leur famille.
On va écouter la BO du roman, Leïla Slimani. On vous a demandé de choisir la musique qui illustre le mieux votre livre, la bande originale du film, quoi. Vous avez choisi Henri Salvador. On écoute un extrait d'une chanson douce et évidemment, vous nous expliquez.
Une chanson douce que me chantait ma maman, en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Ouh. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La, 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 la,
la petite. Alors vous chantez comme ça, hein, je vois chanter l'air de rien.
Oui, parce
je vous ai
que
vu, Leïla Slimani.
Je la chante à mon fils tous les soirs, cette chanson depuis qu'il est né. Et que l'idée de la berceuse, en fait, pour moi, elle était importante parce que la berceuse, c'est à la fois un des moments, je trouve, les plus intimes qu'on peut vivre avec un enfant. Quand vous chantez une berceuse à un enfant, il est complètement à votre merci, il commence à s'endormir, c'est un moment d'une douceur immense. Mais en même temps, c'est un moment un peu hypnotique. Quand vous chantez une berceuse à quelqu'un, c'est justement pour l'endormir.
Ouais.
Donc il y a cette idée que Louise, à la fois, elle est dans un rapport de tendresse avec les autres et qu'en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de je t'endors un peu, c'est-à-dire que tu ne vois plus, je t'aveugle.
À tous les sens du terme.
Ouais. Dans tous les sens. Dans tous les sens du terme.
Et alors le livre, je le rappelle, a pour titre Chanson douce.
Hein,
en même temps, c'était facile.
Voilà.
Bon, très bien. Merci Leïla. On va voir du côté de nos libraires ce qu'ils ont pensé de votre livre. France, Canada ou Suisse, qui choisissez-vous en premier?
La Suisse.
La Suisse. Allons-y, Dominique Bressoux.
Alors, Madame Slimani, je vous dois une nuit blanche à finir votre livre et surtout un bon nombre de cauchemars rétrospectifs.
Pardon.
Mais en fait, pas de rancune parce que j'ai adoré ce roman. Sans émettre de jugement, vous décrivez d'une façon prodigieuse l'immense solitude de deux femmes. C'est un regard peut-être pessimiste, mais ô combien lucide que vous jetez sur notre société et c'est passionnant.
Vous avez à côté de vous le plus méchant de nos libraires, Grégoire Courtois. Désolé, hein, ça tombe sur lui cette semaine. Qu'en avez-vous pensé, Grégoire?
Ah bah moi c'est vraiment un point d'interrogation hein, ce livre.
Ah, ouais, commence
non,
mal.
Ouais non, je dois dire
je
que
je crains le pire.
Depuis la scène d'ouverture en fait, qui est un procédé bon hein, que j'ai trouvé un petit peu convenu, hein, puisqu'il annonce tout de suite la fin. Ensuite, vous avez parlé des 2-3 moments un petit peu inquiétants du livre, mais je trouvais que tout ça était noyé en fait dans un ennui, dans un quotidien vraiment triste en fait. Tous ces gens, enfin je me suis pas du tout passionné pour leur vie, ça m'a vraiment ennuyé. Si bien que le fait divers en fait, que je m'attendais à ce qu'on aborde des sujets de société, des choses qui allaient nous dire des choses, ce que vous venez un peu d'évoquer, mais pour moi
cas,
j'ai
oui.
pas du tout vu ça. Je n'ai
ah
pas
bon
du... Ah non, j'ai pas du...
Pour je moi, suis c'est... pas du tout d'accord avec
mais
vous.
Je sais bien,
quoi.
Mais là,
je suis désolé,
pour le coup,
hein.
Moi, j'avais l'impression de voir effectivement un
vous.
Fait divers qui ne signifie rien, ce qui est d'ailleurs marqué noir sur blanc dans le livre à un moment donné.
Alors, un fait divers qui ne signifie rien.
Là, pour le coup, à un moment donné, il y a dans le livre marqué les histoires des enfants comme celles des adultes. Parfois, il n'y a rien à comprendre. Bah, moi, il m'en fallait un peu plus.
Voilà. Très bien. Jérémy Lagnel, qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord?
Qu'il y avait... Non, absolument pas d'accord avec Grégoire.
Non, il
y avait...
bien,
on n'est jamais d'accord avec
Grégoire. On n'est jamais d'accord avec Grégoire et moi.
Vive Jérémy, allez-y.
Il y avait des pièges, Emmanuel, dans ce livre, hein, on va se le dire. Pourtant, jamais l'auteur, je trouve, tombe dans l'un d'eux. Elle raconte cette histoire à rebours avec empathie, finesse.
Ouais.
Moi, je trouve qu'elle parvient même à nous faire oublier le drame parfois, et ça, c'est quand même une grande maîtrise. C'est un roman inquiétant, dérangeant. C'est là que je suis absolument pas d'accord avec Grégoire, parce que je trouve que dans le quotidien, il y a quelque chose du drame qui s'installe. L'auteur a fait preuve d'une retenue quand le récit le demande, tout comme elle peut déplier la phrase au bon moment. C'est un grand roman par une auteure qui, je crois, vient de confirmer son talent. Là.
Voilà, Leïla Slimani. Bon, en tout cas, c'est vrai que les 3 premières pages dont parlait Grégoire, franchement, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit je vais arrêter, sauf que j'ai pas pu parce que je vous recevais, mais peut-être que j'aurais arrêté si je n'avais pas été journaliste. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de continuer parce qu'on se dit vous allez tomber comme ça dans un fait divers, avec la mort des enfants, vous servir de la mort des enfants pour faire un roman à sensation, et en fait, pas du tout. Vous analysez d'une façon très habile l'aspect psychologique et la détresse sociale, finalement, de cette nounou qui a toujours vécu pour les autres, et qui est humilié en permanence.
Oui, en fait, c'est vraiment pas, le fait divers n'est pas du tout au cœur du livre. Le fait divers n'est qu'un prétexte. Dans le livre, finalement, c'est pas ça qui a de l'importance. C'est justement un récit du quotidien, des détails, c'est-à-dire de tout ce qui déraille dans une vie très banale, mais de tout ce qui fait que justement dans nos vies banales, où on est occupé par plein de servitudes qui peuvent finalement paraître très vaines, voire stupides, notre travail, nos petites ambitions personnelles, nos petits soucis, et ben finalement tout ça nous aveugle aussi dans notre rapport à l'autre et fait qu'on ne regarde pas les gens qui vivent avec nous, que ce soit notre mari, que ce soit la nounou qui travaille avec nous, que ce soit aussi parfois nos enfants.
Et puis l'humiliation répétée, alors évidemment ça n'excuse rien, mais ça explique beaucoup de choses, c'est-à-dire que cette femme, elle a toujours vécu dans un état d'asservissement pour les autres. Et la pression, elle est parfois trop forte. Être corvéable comme ça, soumis quand on vit dans une solitude en parallèle, parce qu'il y a ça aussi, elle est abandonnée de ses proches, hein, en quelque sorte. C'est intenable, ça.
Mais vous savez, la position de nounou, c'est une position qui est très très dure et qui est très cruelle. Moi, j'ai grandi au Maroc, dans un pays où on a encore très souvent des nounous à la maison qui restent là. Et cette espèce de position terrible qui est celle de l'étrangère, mais en même temps de l'intime étrangère, c'est-à-dire de la personne qui est tout le temps là, qui vous voit vivre, qui voit ce que vous mangez, comment vous vous habillez, l'argent que vous pouvez dépenser alors qu'eux ne le peuvent pas, qui entendent les phrases parfois très humiliantes que vous pouvez dire devant eux, et vous parlez comme s'ils n'étaient pas là. Et je crois que cette femme, elle est brisée par toutes ces petites choses-là.
Bon, elle devient folle, hein, c'est affreux, hein, absolument horrible ce qu'elle fait. Mais c'est vrai aussi qu'il y a cette différence sociale avec des classes sociales qui sont pas si éloignées que ça. Et c'est vrai que cet état d'asservissement, ça positionne finalement une différence sociale, tout de suite.
Oui, et puis,
c'est le majordome, c'est le domestique.
C'est ça, mais en même temps, c'est plus comme il y a 100 ans, où si vous voulez, à la fois la question de la lutte des classes ou la question du rapport entre l'employeur et le domestique était beaucoup plus cadrée. On avait l'impression de choses beaucoup plus nettes. Je ne dis pas que c'était mieux ou moins bien, mais en tout cas, les choses étaient plus nettes. Chacun avait une espèce de place. On savait ce que c'était la classe prolétaire, la classe bourgeoise.
Aujourd'hui, là, c'est mélangé,
il y a une espèce de confusion. Il y a aussi un sentiment d'inconfort chez ces bobos qui ne veulent pas vraiment être des patrons. Et ça nourrit beaucoup les malentendus aussi.
Le mot de la fin, c'est pour un libraire. Leïla Slimani, Déborah Damblon en Belgique, c'est à vous l'honneur cette semaine.
Et oui, ben moi j'ai pris aussi, comme un peu tout le monde, une grosse, grosse claque et j'ai été complètement happée par votre récit. Je l'ai lu de bout en bout, le souffle court. Et vraiment, mais quelle horreur, heureusement, rétrospective pour moi. Je me suis laissée prendre dans les sentiments de chacun, parce que en plus je les comprenais tous, j'arrivais à me mettre à leur place. Et ça vraiment, c'était terrible, terrible. Et puis après cette lecture, je trouve qu'on se demande vraiment comment on peut confier ses enfants à qui que ce soit, parce que c'est tellement précieux. Et je me demandais si c'était une façon d'exorciser vos peurs les plus secrètes.
Bah, je pense, et puis je pense que quand on est, moi, je trouve que quand on devient mère, finalement, on découvre des angoisses et on découvre des peurs qu'on n'imaginait pas, ou dont en tout cas, on n'imaginait pas l'immensité. Par rapport à mon fils, j'ai des peurs, mais qui sont absolument atroces. Et du coup, voilà, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout de ça, de faire d'une certaine façon la catharsis de ces cauchemars. Mais c'est vrai que je me fais beaucoup arrêter dans la rue par des gens qui me disent, vous m'avez fait peur. Hein. Vraiment, vous m'avez fait peur. Donc, j'ai l'impression.
Bon, et il y a des nounous formidables aussi.
Évidemment.
Hein.
Bah, évidemment, c'est bon, la très grande majorité d'ailleurs.
Ben oui, heureusement, la très grande, oui, j'espère bien. Merci beaucoup, Leïla Slimani.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Votre roman Chanson douce est paru aux éditions Gallimard, roman qui est sélectionné pour le prix Goncourt et pour le prix Renaudot. Franchement, on vous souhaite bonne chance, Leïla. J'espère qu'on vous portera chance.
C'est très gentil.
À très bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de pouce à un artiste francophone. Voici la française Mesparo et un extrait de son nouvel album.
À coups de revers, balais sur les cours, marche-t-il à l'envers, ou est-ce moi qui compte un repos? De quoi se fait ces fous, des girouettes en trombone, leurs lèvres se dédoublent sous le papier carbone. J'ai peur quand il rit, je pleure quand il jubile, et la sueur sur le front m'effraie. J'ai éteint les écrans, fermé les yeux, écouté les enfants jouer. J'ai compté les passants pressés au feu, ignoré le téléphone. Puis s'étend
la fontaine, puis part en campagne en quête d'un Molière.
Les écrans, un extrait du nouvel album de Mesparo qui sortira mi-octobre, titre que vous pouvez retrouver sur internet. Et c'est la fin de cette édition. Toutes les infos sur l'émission, c'est sur le site internet de votre radio francophone. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Henri Bérec. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France. Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, Christophe Donner et Jean Dormesson, entre autres. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Salut.